Sénèque, lettre à Lucilius, lettre 96. Adhérer à la volonté de Dieu, la vie est une guerre. Et tu t'indignes encore de quelque chose, et tu te plains, et ne comprends pas qu'il n'y a dans tout ceci d'autre mal que ton indignation et tes plaintes. Si tu me demandes mon sentiment, je ne vois de malheureux pour l'homme de cœur que la croyance qu'il y aurait ici-bas quelque malheur pour lui. Je ne me souffrirai plus moi-même du jour où quelque chose me deviendra insupportable. Je me porte mal, c'est dans ma destinée. Mes esclaves sont morts, mes rentes compromises, ma maison écroulée, les pertes, les blessures, les tribulations, les craintes fondent sur moi. Choses ordinaires, que dis-je, inévitables, décrets du ciel, plutôt qu'accidents. Si tu veux en croire un ami qui te découvre avec franchise le fond de son cœur, dans tout ce qu'on appelle disgrâce et rigueur, voici ma règle. Je n'obéis pas à Dieu. Je m'unis à sa volonté. C'est par dévouement, non par nécessité, que je le suis. Quoi qu'il m'arrive, j'accepterai tout sans tristesse, sans changer de visage. Jamais je ne paierai à contre-cœur mon tribut. Or, tout ce qui cause nos gémissements, nos épouvantes, est tribut de la vie. Quant à en être exempt, Lucilius, ne l'espère, ne le demande pas. Un mal de vessie t'a ôté le repos, tes aliments t'ont paru amers, ton affaiblissement a été continu. Allons plus loin. Tu as craint pour tes jours. Et ne savais-tu pas que tu souhaitais tout cela en souhaitant la vieillesse? Tout cela dans une longue vie, ce que sont dans une longue route la poussière, la boue et la pluie. Mais je voulais vivre et n'éprouver aucune incommodité. Un vœu si lâche n'est pas d'un homme. Prends comme tu voudras celui que je fais pour toi. C'est celui du courage autant que de l'amitié. Fasse les dieux et les déesses que tu ne sois jamais l'enfant gâté de la fortune. Demande-toi à toi-même si quelque dieu te laissait le choix, lequel tu aimerais le mieux, de vivre dans les camps ou dans les tavernes. Eh bien la vie, Lucilius, c'est la guerre. Ainsi, ceux qui sont toujours alertes vont gravissant des rocs escarpés ou plongent dans d'affreux ravins, et qui tentent les expéditions les plus hasardeuses sont les braves et l'élite du camp. Mais ceux qu'une ignoble inertie, lorsqu'autour d'eux tout travaille, enchaîne à leur bien-être, sont les lâches qu'on laisse vivre par mépris. Lettre 97. Du procès de Clodius, force de la conscience. Tu te trompes, cher Lucilius, si tu regardes comme un vice propre à notre siècle la soif du plaisir, l'abandon des bonnes mœurs et autres désordres que chacun reprocha toujours à ses contemporains. Tout cela tient aux hommes, non au temps. Aucune époque n'a été pure de fautes. Suis, de siècle en siècle, l'histoire de la corruption. Je rougis de le dire, mais jamais elle n'agit plus à découvert qu'en présence de Caton. Croira-t-on que l'or joua un si grand rôle dans la cause où Clodius était accusé d'adultère ostensiblement commis avec la femme de César, en profanant la sainteté d'un de ses sacrifices qui s'offre pour le salut du peuple, en un lieu où l'aspect seul d'un homme est si sévèrement interdit que jusqu'aux peintures d'animaux mâles y sont voilées? Eh bien, de l'or fut compté au juge, et, chose plus infâme qu'un tel pacte, la jouissance de patricienne et d'adolescente noble fut exigée comme supplément de prix. Le crime fut moins révoltant que l'absolution. L'accusé d'adultère se fait distributeur d'adultère et n'est assuré de son salut qu'en rendant ses juges semblables à lui. Voilà ce qui s'est fait, dans une cause où, n'y eut-il pas eu d'autre frein, Caton avait porté témoignage. Citons les paroles mêmes de Cicéron, car le fait passe toute croyance. Il a mandé les juges, il a promis, il a cautionné, il a donné. Bien plus, bon Dieu, quelle horreur! Des nuits de femmes qu'il désignèrent et de nobles adolescents qu'on dut leur amener. Tel a été, pour quelques juges, le pot de vin du marché. Ne disputons pas sur le prix. L'accessoire fut plus monstrueux. Tu veux la femme de cet homme austère, je te la donne. De ce riche, je la mettrai dans ton lit. Si je ne te procure pas l'épouse de cet autre, condamne-moi. Cette belle que tu désires, elle viendra. Je te promets une nuit de cet autre, et je ne serai pas long. Dans les 24 heures, ma promesse sera tenue. Distribuer des adultères, c'est faire pis que de les commettre. L'un est pour de nobles dames une injonction méprisante, l'autre un jeu de libertin. Ces juges, si dignes de l'accusé, avaient demandé au Sénat une garde qui n'était nécessaire qu'en cas de condamnation et l'avaient obtenue. Ce qui leur valut ce mot piquant de Catulus après l'absolution. Pourquoi nous demander une garde? Craignez-vous qu'on ne vous reprît lors de Claudius? Mais ces plaisanteries n'empêchaient pas l'impunité d'un homme adultère avant le jugement, courtier de prostitution pendant qu'on le jugeait, qui, pour échapper à son arrêt, avait fait pique pour le mériter. Crois-tu qu'il y ait eu rien de plus corrompu que ces mœurs, quand ni religion ni justice n'arrêtaient la débauche, qui, dans cette même enquête, suivie extraordinairement par décret du Sénat, consommait de plus graves attentats que ceux qu'on recherchait. Il s'agissait de savoir si, après l'adultère, on pouvait être en sûreté. Il fut reconnu qu'on ne pouvait l'être qu'au moyen de l'adultère. Et ceci s'est commis sous les yeux de Pompée et de César, sous les yeux de Cicéron et de Caton. De ce Caton, disons-nous, en présence duquel le peuple n'osa demander aux jeux floraux qu'on fit paraître les courtisanes nues. Crois-tu les hommes d'alors plus austères comme spectateurs que comme juges? Tout cela se verra, tout cela s'est vu, et l'immoralité des villes, momentanément contenue par les lois et la crainte, ne s'arrêtera jamais d'elle-même. Ne va donc pas te figurer que la débauche soit aujourd'hui plus autorisée et les lois moins libres d'agir. De nos jours, la jeunesse est bien plus retenue qu'au temps où un accusé se défendait d'un adultère devant ses juges, tandis que les juges s'avouaient coupables du même crime devant l'accusé. Lorsque, pour juger l'infamie, on la commettait. Lorsqu'un Claudius, plus en crédit que jamais, par les vices qui l'avaient rendu criminel, se faisait entremetteur au moment où se plaidait sa cause. Qui le croira? Un seul adultère l'eût fait condamner. Sa complicité dans plusieurs le fit absoudre. Tout âge aura ses Claudius, mais tout âge n'aura point ses Catons. Nous inclinons facilement au mal. Pour le mal, les guides ni les compagnons ne peuvent manquer. Que dis-je? On y va sans guide ni compagnon, de soi-même. C'est plus qu'une pente, c'est un précipice. Et ce qui nous rend presque tous incapables de retour au bien, c'est que dans tous les autres arts, les fautes portent honte et dommage à leur auteur. Dans l'art de la vie, on trouve du charme à faillir. Le pilote n'applaudit point de voir son vaisseau couler bas, ni le médecin d'enterrer son malade, ni l'orateur, si la faiblesse de sa défense a fait succomber son client. Pour l'ennemi des mœurs au contraire, prévariquer, c'est jouir. L'un triomphe d'un adultère que rendaient plus piquants les obstacles. L'autre met sa joie dans la fourberie et le vol. Nul repentir du crime que si le crime a mal tourné. Tel est l'effet des habitudes perverses. Car, d'un autre côté, la preuve que le sentiment du bien survit, même dans l'âme la plus abandonnée au mal, et qu'elle n'ignore point ce qui est déshonnête, mais qu'elle n'y songe plus, c'est que tout homme dissimule une mauvaise action, et que lui eût-elle réussi, en recueillant le résultat, il a bien soin de cacher la cause. Mais une conscience pure aime le grand jour et défie tous les regards. Le méchant craint jusqu'aux ténèbres. Épicure a dit là-dessus fort heureusement, ce me semble, le malfaiteur peut avoir la chance de rester caché. La certitude, il ne peut l'avoir. Ou bien, si tu trouves le sens plus clair comme ceci, rien ne sert au coupable de demeurer caché. Eût-il même cette fortune, il n'y aurait pas foi. Oui, l'impunité peut suivre le crime, la sécurité, jamais. Je ne crois pas qu'ainsi énoncée, cette maxime choque notre école. Pourquoi ? Parce que la plus prompte comme la plus grave peine du malfaiteur est d'avoir fait le mal, et que, pas un crime, dû la fortune l'orner de tous ses dons, et le protéger et le couvrir, ne reste impuni. Le supplice du crime est dans le crime même, et néanmoins, un autre châtiment encore le presse et le poursuit. Toujours il craint et prend l'alarme, et ne suffit à rien de ce qui pourrait le rassurer. Pourquoi délivrerais-je d'un tel supplice l'iniquité? Pourquoi ne la laisserais-je pas toujours en suspens? Séparons-nous ici d'Épicure qui dit « Rien n'est juste de sa nature, et il faut éviter de faire le mal, parce que, ensuite, on n'évite pas la crainte. » Mais répétons avec lui qu'une mauvaise conscience porte en elle ses fouets vengeurs et subit des tortures infinies dans cette perpétuelle angoisse qui l'oppresse, qui la déchire, qui lui défend de croire au garant de sa sécurité. Et cela même démontre, ô Épicure, que naturellement l'homme abhorre le crime, puisque nul coupable, au fond même du plus sûr asile, n'est exempt de frayeur. Beaucoup sont, par hasard, affranchis de la punition. Nul ne l'est de la crainte. Pourquoi ? C'est que nous portons imprimé en nous l'horreur de ce que la nature condamne. Aussi n'est-on jamais sûr d'être bien caché lors même qu'on l'est le mieux. Car la conscience nous accuse et nous dénonce à nous-mêmes. Le propre du crime est de trembler toujours. Malheur à l'humanité lorsque tant de forfaits échappent à la loi, aux magistrats et aux supplices écrits, si la nature ne faisait tout payer et cruellement et à l'heure même, et si, à défaut du châtiment, elle n'envoyait la peur. Lettre 98. Ne point s'attacher aux biens extérieurs. L'âme, plus puissante que la fortune, se fait une vie heureuse ou misérable. Ne regarde jamais comme heureux celui dont le bonheur est suspendu aux chances du sort. Fragile appui que l'extérieur pour qui y place sa joie. Elle sortira par où elle est entrée. Mais celle qui naît de son propre fond est fidèle et solide. Elle croit et nous accompagne jusqu'à notre dernière heure. Toutes les autres admirations du vulgaire ne sont des biens que pour un jour. Mais quoi ? Ne saurait-on y trouver ni profit ni plaisir ? Qui dit le contraire ? Pourvu toutefois que nous en soyons les maîtres, qu'ils ne soient pas les nôtres. tout ce qui relève de la fortune peut profiter et plaire sous une condition. Que le possesseur se possède et ne soit point l'esclave de ce qu'il a. Car on s'abuse, Lucilius, si l'on croit qu'un seul des biens ou des maux de l'homme lui viennent de la fortune. Elle ne donne que la matière des uns comme des autres, et les éléments de ce qui, chez lui, deviendra bien ou mal. Plus forte que toute destinée, l'âme fait seule prendre à ce qui la touche une face riante ou rembrunie, et devient l'artisan de ses joies et de ses misères. Pour le méchant, rien qui ne tourne en mal, même ce qui lui venait sous l'apparence du plus grand bien. L'âme droite et saine redresse les torts de la fortune, adoucit ses plus vives rigueurs par l'art de les supporter. Reconnaissante et modeste dans le succès, courageuse et ferme dans la disgrâce. Malgré sa prudence et les religieux scrupules qu'elle apportera dans tous ses actes, bien qu'elle ne tente rien au-delà de ses forces, elle n'obtiendra pas ce bonheur absolu et inaccessible aux menaces si elle ne se tient immobile devant la mobilité des choses. Que tu observes les autres, car on juge plus nettement ce qui ne nous est point personnel, ou que tu t'observes sans partialité, et tu sentiras, et tu avoueras, que dans ce qui nous est désirable et cher, il n'est rien d'utile, si tu ne t'es armé contre la légèreté du sort et des choses dépendantes du sort. Si tu ne répètes, au lieu de te plaindre, à chaque dommage qui survient, « Les dieux ont jugé autrement », ou même, inspiration plus haute, « Les dieux ont mieux jugé que moi ». Plus d'accidents pour l'homme ainsi préparé. Et l'on se prépare ainsi, quand on songe, avant de le sentir, à tout ce que peut la vicissitude des choses humaines. Quand on possède ses enfants, sa femme, son patrimoine, comme ne pouvant les posséder toujours, et comme ne devant pas être plus à plaindre si on vient à les perdre. Déplorables esprits que ceux que l'avenir tourmente, malheureux avant le malheur, qui se travaillent pour conserver jusqu'au bout leur jouissance du moment. En aucun temps ils ne seront calmes, et dans l'attente du futur, le présent dont ils pouvaient jouir leur échappe. Nulle différence entre perdre une chose et trembler de la perdre. Ce n'est pas que je te prêche ici l'insouciance. Loin de là, prends garde aux écueils. Tout ce que la sagesse peut prévoir, prévois-le. Observe, détourne bien avant qu'il n'arrive tout ce qui peut te porter dommage. Pour cela même, rien ne servira mieux qu'une confiance hardie et une âme d'avance cuirassée contre la souffrance. Qui peut supporter les coups du sort pourra les éviter. Et ce n'est pas dans un tel calme qu'il soulève les orages. Rien de plus misérable et de moins sage qu'une crainte anticipée. Quelle est donc cette démence de devancer son infortune? Enfin, pour rendre en deux mots ma pensée et te peindre au vrai ces affairés ennemis d'eux-mêmes, ils sont aussi impatients sous le coup que dans l'attente du malheur. Ils s'affligent plus qu'ils ne le devraient, l'homme qui s'afflige plus tôt qu'il ne le doit. Comment apprécierait-elle la douleur, cette même faiblesse qui ne sait point l'attendre? Avec cette sorte d'impatience, on rêve la perpétuité du bonheur. On le croit fait pour croître toujours, si haut qu'il soit déjà, non pour durer seulement. On oublie par quel mécanisme toute destinée monte ou s'affaisse, et c'est la constance du hasard que l'on se promet pour soi seul. Aussi, Maître d'Or me paraît-il avoir très bien dit dans une lettre à sa sœur qui venait de perdre un fils du meilleur naturel. tous les biens des mortels sont mortels comme eux. » Il parle des biens vers lesquels se précipite la foule, car le grand, le vrai bien, ne meurt pas. Il est aussi certain que permanent. Il s'appelle sagesse et vertu, seule chose impérissable que donne le ciel à qui doit périr. Du reste, l'homme est si injuste, si oublieux du terme où il marche, où chacune de ses journées le pousse, qu'il s'étonne de la moindre perte, lui, qui doit tout perdre en un jour. Sur quelque objet que tu fasses graver « ceci m'appartient », cet objet peut être chez toi, il n'est pas à toi. Rien de solide pour l'être débile, pour la fragilité, rien d'éternel et d'indestructible. C'est une nécessité de périr aussi bien que de perdre. Et ceci même, comprenant le bien, console un esprit juste. Il ne perd que ce qui doit périr. Eh bien, contre ces pertes, quelles ressources avons-nous trouvées? Celle de retenir par le souvenir ce qui nous a fui, sans laisser échapper du même coup les fruits que nous avons pu en recueillir. La possession s'enlève, avoir possédé nous reste. Tu es le plus ingrat des hommes si, après que tu as reçu, tu te crois quitte quand tu perds. Un accident nous ravit la chose, mais en avoir usé, mais le fruit de cette chose est encore à nous. Nos iniques regrets nous font tout perdre. Dis-toi bien, de tout ce qui me semble terrible, rien qui n'ait été vaincu, qui ne l'ait été par plus d'un mortel, le feu par Mucius, la croix par Régulus, le poison par Socrate, l'exil par Utilius, la mort au moyen du fer par Caton. Nous aussi, sachons vaincre quelque chose. D'autre part, ces faux biens, dont l'éclat apparent entraîne le vulgaire, ont été par plusieurs et plus d'une fois dédaignés. Fabricius, général, refusa les richesses. Censeur, il les flétrit. Tubéron jugea la pauvreté digne de lui, digne du Capitole, le jour où, se servant d'argile dans un repas public, il montra que l'homme devait se contenter de ce qui était, même alors, à l'usage des dieux. Sextius le père répudia les honneurs, lui que sa naissance appelait aux premières charges de la République. Il ne voulut point du laticlave que lui offrait le divin Jules, car il sentait que ce qui peut se donner peut se reprendre. À notre tour, faisons preuve de magnanimité. Prenons rang parmi les modèles. Pourquoi mollir? Pourquoi désespérer? Tout ce qui fut possible l'est encore. Nous n'avons qu'à purifier notre âme et suivre la nature. Qui s'en écarte est condamné à désirer et à craindre, à être esclave des événements. Nous pouvons rentrer dans la route, nous pouvons ressaisir tous nos droits. Ressaisissons-les, et nous saurons supporter la douleur, sous quelque forme qu'elle envahisse notre corps. Et nous dirons à la fortune : tu as affaire à un homme de cœur. Cherche ailleurs. Qui tu pourras vaincre? Avec ces propos et d'autres semblables, notre ami calme les douleurs d'un ulcère qu'assurément je voudrais voir perdre de sa violence et se guérir, ou rester stationnaire et vieillir avec lui. Mais pour lui je suis bien tranquille. C'est la perte que nous ferons qui m'inquiète si ce digne vieillard nous est enlevé. Car lui, il est rassasié de la vie. S'il en désire la prolongation, ce n'est pas pour lui, mais pour ceux auxquels il est utile. Il vit par générosité. un autre eût déjà mis fin à de telles souffrances. Notre ami pense qu'il est aussi honteux de se réfugier dans la mort que de la fuir. Et quoi? Si tout l'y engage, ne quittera-t-il pas la vie? Pourquoi non? Si, n'étant plus utile à personne, il ne fait plus que perdre sa peine à souffrir. Voilà, cher Lucilius, s'instruire d'exemple à la philosophie et s'exercer en présence des actes. Voir ce qu'un homme éclairé a de courage contre la mort, contre la douleur, aux approches de l'une, sous l'étreinte de l'autre. Ce qu'il faut faire, apprenons-le de celui qui le fait. Jusqu'ici, nous cherchions par des arguments s'il est possible à qui que ce soit de résister à la douleur, si les plus grands courages eux-mêmes fléchissent en face de la mort. Qu'est-il besoin de paroles? La chose est sous nos yeux. Voici un homme que ni la mort ne rend plus ferme contre la douleur, ni la douleur contre la mort. Contre tous deux, il s'appuie lui-même. L'espoir de la mort ne le fait pas souffrir plus patiemment, ni l'ennui de la souffrance mourir plus volontiers. Il attend l'une, il supporte l'autre. Lettre 99. Sur la mort du fils de Marullus, divers motifs de consolation. Je t'envoie la lettre que j'écrivis à Marullus quand il perdit son tout jeune fils, et qu'on m'apprit qu'il supportait cette perte avec peu de fermeté. Je n'y ai pas suivi l'usage ordinaire et n'ai point cru devoir traiter mollement un homme plus digne de réprimande que de consolation. Pour une âme abattue et qui supporte impatiemment une blessure profonde, il faut quelque peu d'indulgence, mais qu'elle se rassasie de son deuil, ou exhale du moins ses premiers transports. Mais ceux qui pleurent de parti pris, qu'on les gourmande sur le champ, et qu'ils apprennent combien, même dans les larmes, il y a d'inconséquences. Tu attends, lui disais-je, des consolations. Tu recevras des reproches. Quoi? Tant de faiblesse pour la mort d'un fils? Que ferais-tu si tu perdais un ami? Il t'est mort un fils de douteuse espérance, du tout premier âge. Ce sont bien peu de jours perdus. On se cherche partout des motifs d'affliction. Sans motif même, on veut se plaindre de la fortune, comme si elle ne devait pas nous en fournir de légitimes. Mais en vérité, tu me semblais avoir déjà assez de constance contre des malheurs réels pour ne pas en manquer devant ces fantômes de malheur dont on ne gémit que pour suivre l'usage. Tu ferais la plus grande des pertes celle d'un ami que tu devrais encore plutôt te réjouir de l'avoir possédé que t'attrister de ne l'avoir plus. Mais personne presque ne porte en compte toutes les avances qu'il a reçues, tous les plaisirs qu'il a goûtés. La douleur, entre autres misères, a cela de particulier qu'elle est infructueuse, disons plus qu'elle est ingrate. Et quoi? De ce que tu n'as plus ce précieux ami, votre œuvre est-elle perdue? Ces longues années, cette fusion intime de deux existences, cette étroite fraternité d'études, n'ont-elles rien produit? Enterres-tu ton amitié avec ton ami? Et pourquoi gémir de l'avoir perdu, si sa possession t'a été stérile? Crois-moi, le sort a beau nous enlever ce que nous aimons, la plus grande partie d'eux-mêmes demeure avec nous. Il est à nous le temps qui n'est plus, et rien n'est en lieu plus sûr que ce qui a été. Nos prétentions sur l'avenir nous rendent ingrats envers les bienfaits qui précédèrent, comme si l'avenir, en admettant qu'ils nous réussissent, ne devait pas bien vite se perdre dans le passé. C'est apprécier étroitement les choses que d'enfermer ses joies dans le présent, et l'avenir et le passé ont leur charme. L'un a l'espérance, l'autre le souvenir. Mais le premier, encore en suspens, peut ne point arriver. Le second peut ne point avoir été. Quelle folie est-ce donc de se laisser déchoir de la plus sûre des possessions? Savourons en esprit nos jouissances épuisées, si toutefois, en les épuisant, notre âme, comme percée à jour, n'a pas laissé perdre ce qu'on lui versait. Il y a une infinité d'exemples de pères qui suivent sans larmes le convoi de leurs enfants morts à la fleur de l'âge, qui, du bûcher, revinrent au Sénat ou à l'exercice de quelque charge publique et se livrèrent tout de suite à autre chose qu'à la douleur. Et ils firent bien, car d'abord, la douleur est superflue dès qu'elle ne change en rien les choses. Ensuite, la plainte n'est pas juste quand l'accident qui aujourd'hui frappe l'un est réservé à tous. Enfin, regrets et plaintes sont déraisonnables là où si peu d'instants sépare l'être qui s'en va de celui qui le regrette. Résignons-nous donc d'autant mieux à sa perte que nous allons le suivre. Considère la célérité du temps qui fuit à tire-d'aile. Songe à ce court espace où nous sommes emportés si vite. Regarde bien tout ce cortège du genre humain tendre vers le même terme et à de très brefs intervalles, lors même qu'il semble le plus long. Le fils que tu as cru perdre n'a fait que prendre les devants. Quelle démence à toi qui achèves la même route de le plaindre d'être arrivé le premier. Pleure-t-on un événement qu'on savait bien devoir s'accomplir? Si l'on ne croyait point qu'un homme eût dû mourir, on se mentait à soi-même. Pleure-t-on un événement qu'on reconnaissait soi-même inévitable? Se plaindre qu'un homme soit mort, c'est se plaindre qu'il ait été homme. Tous, nous sommes liés au même destin. Si tu obtiens de naître, il te reste à mourir. Nous différons par les intervalles, au but, nous redevenons égaux. La durée, qui s'étend du premier au dernier de nos jours, n'est qu'incertitude et variation. Calculée sur l'échelle des mots, elle est longue, même pour l'enfant. Sur la vitesse, elle est courte, même pour le vieillard. Rien qui ne nous échappe et ne nous trompe. Tout est plus noble que les flots les plus orageux. Tout n'est qu'un va-et-vient. Tout se transforme en son contraire au commandement de la fortune. Et, dans une telle révolution des choses humaines, rien pour aucun de nous, sinon la mort, n'est certain. Tous pourtant la maudissent, elle qui seule n'abuse personne. Mais il est mort à un âge si tendre. Je ne te dis pas encore que le plus heureux est l'être débarrassé de la vie. Passons au vieillard. De combien peu il l'emporte sur l'enfant? Représente-toi l'océan des âges, si profond et si vaste. Embrasse-le tout entier. Puis compare ce qu'on appelle une vie d'homme à l'immensité même. Et vois sur quelle minime durée portent nos vœux, nos calculs sans fin. De ce peu d'heures, combien nous prennent les larmes? Combien les soucis, combien nos souhaits de mort avant que la mort n'arrive, combien les maladies, les craintes, les années ou trop tendres ou incultes ou stériles, et la moitié du tout se passe à dormir. Ajoutes-y travaux, afflictions, périls, tu reconnaîtras que même dans la plus longue vie, la moindre part est celle où l'on vit en effet. Maintenant, personne t'accordera-t-il que ce ne soit pas une grâce pour l'homme de rentrer dans son premier état et d'achever sa route avant l'heure de la lassitude. La vie n'est ni un bien ni un mal, c'est le théâtre de l'un et de l'autre. Ainsi, ton fils n'a rien perdu qu'une chance plus certaine de dommage. Il eût pu sortir de tes mains sage et prudent. Il eût pu, sous l'aile paternelle, croître pour la vertu. Mais, crainte plus légitime, il eût pu ressembler au grand nombre. Vois ces jeunes descendants des plus nobles maisons que la débauche a jetés dans l'arène. Vois-les, assouvissant, tout ensemble, leur lubricité et celle d'autrui, se prostituer à tour de rôle, et ne pas laisser s'écouler un jour sans ivresse ou sans quelque autre éclatant scandale. Il te sera démontré que la crainte était plus fondée que l'espérance. Ne te forge donc pas de nouveaux motifs d'affliction. À de faibles désagréments, n'ajoute pas le poids de ton impatience. Je ne te demande pas de grands efforts, de l'héroïsme. Je ne présume pas assez mal de ta vertu pour te croire réduit à l'appeler à toi tout entière. Ce n'est pas là une blessure, c'est une morsure légère. La blessure, c'est toi qui l'as fait. Certes, la philosophie t'a merveilleusement profité. Si un enfant, plus connu jusqu'ici de sa nourrice que de son père, te cause d'aussi violents regrets. Mais quoi ? Te conseillais-je l'insensibilité ? Voudrais-je voir tes traits impassibles au bûcher d'un fils, et irais-je jusqu'à défendre au cœur d'un père de se serrer ? Oh, Dieu ne plaise ! Cette inhumanité, ce n'est pas force d'âme, que d'envisager du même œil les funérailles ou la vie des siens, que de n'être pas ébranlé au premier déchirement qui nous sépare d'eux. Et quand je te les défendrai, il est des choses qu'on ne maîtrise point. Les larmes s'échappent quoi qu'on fasse, et en s'épanchant, elles soulagent le cœur. Quel parti prendre ? Permettons qu'elles coulent sans les provoquer, mais qu'elles coulent tant que la douleur les fera sortir, non d'après les invitations de l'exemple. N'aggravons en rien notre peine, ne l'amplifions pas sur ce que nous voyons chez les autres. Il y a un faste de douleur plus exigeant que la douleur même. Combien peu d'hommes sont tristes pour eux seuls. Nous éclatons si le monde nous entend, muet et calme dans la solitude. L'aspect du premier venu nous fait fondre en larmes de plus belle. Alors, on se frappe la tête, ce qu'on pouvait faire plus à l'aise quand nul ne nous empêchait. Alors on invoque le trépas, on se roule de son lit à terre. Toutes ces démonstrations s'en vont avec le spectateur. Ici, de même qu'ailleurs, nous tombons dans le travers de prendre exemple du grand nombre et de consulter non le devoir, mais la coutume. Transfuge de la nature, nous nous livrons à l'opinion, toujours mauvaise conseillère, et le plus inconséquent des juges sur ce point comme sur tout le reste. Voit-elle un homme courageux dans l'affliction ? Elle l'appelle cœur sauvage et dénaturé. En voit-elle un autre défaillir, étendu sur un corps chéri ? Famelette, dit-elle, âme sans vigueur. C'est donc aux lois de la raison qu'il faut tout rappeler. Or, rien ne répugne à la raison comme de viser à ce qu'on cite notre douleur et qu'on admire nos larmes. Le sage, sans doute, s'en permet quelques-unes. D'autres lui échappent d'elles-mêmes. Mais voici la différence. Quand la première nouvelle d'une mort prématurée nous frappe, quand nous pressons ce corps qui, de nos bras, va passer dans les flammes, irrésistiblement, la nature nous arrache des pleurs. La sensibilité, sous l'impression d'une douleur poignante, en ébranlant tout l'individu, agit sur les yeux, d'où elle chasse, en la comprimant, l'humeur qui les avoisine. Ces larmes-là tombent forcément malgré nous. Il en est auxquelles nous donnons passage quand la mémoire de ceux que nous avons perdus se réveille. Et je ne sais quelle douceur se mêle à la tristesse, au souvenir de leur agréable entretien, de leur commerce enjoué, de leur complaisante tendresse. Alors, nos paupières se dilatent comme dans la joie. Ici, on s'abandonne. Ailleurs, on est subjugué. Et c'est pourquoi la présence d'aucun cercle, d'aucun assistant, ne doit retenir ni exciter nos pleurs. Les essuyer ou les laisser couler est toujours moins honteux que les feindre. Qu'ils suivent leur cours. Ils peuvent venir aux tempéraments les plus calmes et les plus rassis. Souvent, les pleurs du sage coulèrent sans que sa dignité en souffrît. Mais c'était dans une telle mesure que pour être homme, il ne cessait pas d'être grand. Oui, nous pouvons céder à la nature en gardant notre gravité. J'ai vu, aux funérailles des leurs, des hommes vénérables, sur le visage desquels perçait la tendresse du cœur, sans rien de nos désespoirs d'apparat, rien qui ne fût donné à une affection sincère. Il est, jusque dans la douleur, une bienséance que doit observer le sage, et, comme toute chose, l'affliction a ses limites. Chez les hommes de peu de raison, les joies comme les douleurs débordent. Subis sans murmure les coups de la nécessité, qu'est-il survenu d'improbable, d'extraordinaire? Combien, à cette heure même, il se commande d'enterrement? Que de lits funèbres s'achètent? Combien de deuils après le tien? Autant de fois que tu diras « Mon fils était enfant », dis aussi « Il était du nombre des mortels, auxquels rien n'est garanti, que le destin n'est pas tenu de conduire à la vieillesse. Où il le veut, il les congédie. » Du reste, parle fréquemment de lui, fais revivre, autant que tu pourras, son souvenir qui se représentera plus souvent s'il n'est pas accompagné d'amertume. Car, si les gens tristes ne sont guère recherchés, la tristesse l'est bien moins encore. Quelques heureux propos, quelques gentillesses, toute enfantine qu'elle fût, t'ont-ils charmé en lui? Reviens-y souvent, et affirme sans crainte qu'il eût pu remplir les espérances conçues par la tendresse de son père. Perdre la mémoire des siens et l'ensevelir avec leurs cendres, être pour eux prodigue de larmes, avare de souvenirs, c'est ne point porter un cœur d'homme. C'est ainsi que les oiseaux, que les bêtes féroces aiment leurs petits. Leur amour des plus violents est, pour ainsi dire, de la rage. Mais, viennent-ils à les perdre, il s'éteint tout à fait. Cela ne sied point au sage. Sa mémoire sera persévérante, ses larmes passeront. Je n'approuve en aucune façon ce que dit Métrodore, qu'il est une volupté sœur de la tristesse, qu'on fera bien de savourer au jour d'affliction. J'ai transcrit ses propres paroles tirées de sa première lettre à sa sœur. Je ne doute pas du jugement que tu en porteras, car quoi de plus honteux? Être au sein du deuil, en quête du plaisir, l'espérer du deuil même, et demander aux pleurs une jouissance. voilà les hommes qui nous reprochent trop de rigorisme, qui flétrissent nos doctrines comme impitoyables. Quand nous disons qu'on doit fermer son âme au chagrin ou les en bannir au plus vite. Lequel donc est le plus inadmissible, le plus barbare? Ou de ne pas sentir la douleur de perdre un ami, ou d'être au milieu de sa douleur, à l'affût de la volupté. Nos préceptes à nous n'ont rien que d'honnête. Quand le cœur, trop rempli, s'est soulagé de quelques larmes, et a jeté, pour ainsi dire, ses premiers bouillons, nous lui défendons le désespoir. Et tu conseilles, toi, l'amalgame du deuil et de la joie. Ainsi, l'on console un enfant avec du gâteau, et l'on fait taire les cris d'un nourrisson en faisant couler du lait dans sa bouche. Quoi ? À l'instant même où ton fils est la proie des flammes, où ton ami expire, tu n'admets point de trêve au plaisir. Ton chagrin est une sensualité du plus. Lequel est le plus honorable ? Ou d'éloigner de ton âme la douleur, ou d'y accueillir la volupté, de pair avec elle? Que dis-je de l'accueillir, de courir après, de vouloir l'extraire de ta douleur même? Il est, dis-tu, une volupté sœur de la tristesse. C'est à nous qu'est permis ce langage, à vous, il ne l'est pas. Vous ne connaissez de bien que la volupté, de mal que la douleur. Entre le bien et le mal, quelle parenté peut-il y avoir? Mais supposons-la. Est-ce bien le moment de faire cette trouvaille, de scruter sa douleur pour surprendre, autour d'elle, quelque chose qui nous délecte et qui nous chatouille? Certains remèdes salutaires à telle partie du corps sont trop malpropres et trop peu décents pour s'appliquer à telle autre. Et ce qui ailleurs soulagerait sans choquer la pudeur devient déshonnête selon l'endroit de la blessure. N'as-tu pas honte de guérir le deuil du cœur par la volupté? Cherche une cure plus sévère à une telle plaie. Dis plutôt, l'homme qui a cessé d'être ne sent plus le mal, ou s'il le sent, il n'a pas cessé d'être. Non, plus de souffrance pour qui n'est plus, car souffrir, c'est vivre. Le crois-tu à plaindre de n'être pas, ou d'être encore d'une manière quelconque? Or, ce ne peut être un tourment pour lui de ne pas exister. Le néant peut-il rien sentir? Et s'il existe, point de tourment, car il échappe au grand désavantage de la mort, qui est de n'être plus. Disons aussi à quiconque pleure et regrette un fils enlevé dès le bas âge. Nous tous, vu la brièveté de nos jours, comparés à l'ensemble des siècles, jeunes ou vieux, nous sommes au même point. Notre partage sur la totalité des temps est moindre que ce qu'on peut dire de plus imperceptible, car même l'imperceptible est quelque chose. Ce qui nous est donné à vivre se réduit presque à rien, et ce rien, ô démence, nos plans l'étendent à l'infini. Si je t'écris ceci, ce n'est pas que je pense que tu l'attendes de moi. Le remède viendrait bien tard, et je suis sûre de t'avoir dit de vive voix tout ce que tu vas lire. Mais j'ai voulu te punir d'un moment d'oubli qui t'avait laissé absent de toi-même, et pour l'avenir, t'exhorter à opposer à la fortune toute la vigueur de ton courage, à prévoir tous ses traits, non comme possible, mais comme devant atteindre à coup sûr. Lettre 100. Jugement sur les écrits du philosophe Fabianus. Tu m'écris que tu as lu avec beaucoup d'empressement les livres de Fabianus Papirius sur les devoirs civils, mais qu'ils n'ont pas répondu à ton attente. Puis, oubliant qu'il s'agit d'un philosophe, tu blâmes sa construction oratoire. Admettons que tu dises vrai, qu'il laisse aller ses paroles et ne les travaille pas. D'abord, cette manière a sa grâce, et un charme particulier s'attache à une composition facile et coulante. Car il est essentiel, je crois, de distinguer si elle tombe négligemment ou si elle s'échappe avec aisance. Et ici même, comme je vais le dire, il y a une différence importante. Fabianus, ce me semble, ne presse pas sa diction. Il l'épanche tant elle abonde et se déroule avec calme, bien que l'entraînement s'y laisse sentir. Elle annonce et révèle clairement qu'on ne l'a ni façonnée ni longtemps tourmentée. Mais, croyons-le comme toi, il a fait de la morale, non du style. Il a écrit pour l'âme et point pour l'oreille. D'ailleurs, quand il discourait, tu n'aurais pas eu le temps de songer aux détails, tant l'ensemble t'aurait transporté. Et presque toujours, ce qui plaît improvisé est d'un effet moindre sur le manuscrit. Mais c'est déjà beaucoup de captiver au premier abord l'attention, encore qu'un examen réfléchi doive trouver à reprendre. Mon avis, si tu le demandes, c'est qu'il est plus beau d'emporter les suffrages que de les mériter. Et je sais bien que les mériter est le plus sûr. Je sais qu'alors on compte plus hardiment sur l'avenir. Un style trop circonspect ne sied point au philosophe. Quand sera-t-il énergique et ferme? Quand risquera-t-il sa personne s'il craint pour ses mots? La diction de Fabianus ne sentait point la négligence mais la sécurité. Aussi n'y trouveras-tu rien de bas. Il choisit ses termes sans courir après, ni les placer selon le goût du siècle, au rebours de l'ordre naturel. Ils ont de l'éclat, quoique pris de la langue ordinaire. Sa pensée, noble et magnifique, n'est point écourtée en sentence. Elle se développe largement. Tu trouveras chez lui des manques de précision, des structures de phrases peu savantes, ou qui n'ont pas notre poli moderne. Mais l'œuvre entière, bien considérée, on n'y voit rien d'étroit et de vide. Là, sans doute, ni variété de marbre, ni salon entrecoupé de canaux d'eau vive, ni cabane du pauvre, ni tout ce qu'un luxe dédaigneux de la belle simplicité entasse de disparate. Mais, comme on dit, la maison est bien construite. Ajoute qu'en fait de composition oratoire, on n'est pas d'accord. Les uns lui veulent une nudité sauvage pour parure. D'autres l'aiment raboteuse. Au point que si le hasard leur amène une période un peu harmonieuse, ils la démembrent tout exprès. Ils en brisent les cadences, de peur qu'elle ne réponde à l'attente de l'oreille. Lit Cicéron. Sa composition est une, souple et posée, molle sans être efféminée. Asinius Pollion, style rocailleux et sautillant, qui laisse l'oreille au dépourvu, où l'on y pense le moins. Cicéron n'a que d'heureuses désinences. Chez Pollion, tout est cascade, sauf quelques phrases bien rares, sorties d'un moule convenu et d'une structure uniforme. Pour Fabianus, il va, dis-tu, terre à terre, et s'élève peu. Je ne crois pas que tel soit son défaut. Il n'y a pas chez lui manque de grandeur. C'est du calme, c'est le reflet d'une âme habituellement paisible et tempérée. Il est uni mais sans bassesse. Il n'a pas cette vigueur oratoire, ces aiguillons que tu demandes, ces sentences frappantes et soudaines. Mais vois le corps tout entier. Bien que sans apprêt, il a sa beauté. La dignité, son discours ne l'a pas, elle est au fond de sa doctrine. Montre-moi qui tu pourrais préférer à Fabianus. Je te passe Cicéron, dont les œuvres philosophiques sont presque aussi nombreuses que les siennes. Mais s'ensuit-il qu'on soit un nain, dès qu'on n'a pas la taille du géant? Je te passe Asinius Pollion, et je dis, en si haute matière, c'est exceller que d'être le troisième. Nomme Tite Live enfin, car il a écrit aussi des dialogues qu'on peut rattacher à la philosophie autant qu'à l'histoire, et des traités de philosophie pure. Je lui ferai place encore. Mais vois que de rivaux on dépasse quand on n'a que trois vainqueurs, et tous trois des plus éloquents. Mais Fabianus n'a pas tous les mérites. Son style est sans nerfs, bien qu'il ait de l'élévation. Il n'est point rapide, ni impétueux, malgré son ampleur. Il n'est pas limpide, il n'est que pur. Tu voudrais, dis-tu, l'entendre malmener le vice, mettre les périls au défi, apostropher la fortune, humilier l'ambition. Tu voudrais que le luxe fût gourmandé, la débauche stigmatisée, la violence désarmée, que l'art oratoire parfois lui prêtât ses foudres, la tragédie son grandiose, le comique sa finesse. Veux-tu donc qu'il s'amuse à la plus petite des choses, aux mots? Il s'est voué à la science, son sublime objet, et l'éloquence le suit comme son ombre, sans qu'il y prenne garde.
Non, sans doute, il ne s'observera point à chaque pas, ramassant sa phrase sur elle-même, et disant chaque parole en traits qui réveillent et qui percent. Beaucoup, je l'avoue, tomberont sans porter coup, et par moments, son discours glissera sur nous sans agir. Mais partout règnera une grande lumière. Mais, si long qu'il soit, le chemin sera sans ennui. Bref, il te laissera convaincu qu'il a écrit comme il sentait. Tu reconnaîtras qu'il a tout fait pour t'instruire de ses idées, non pour flatter les tiennes. Tout, chez lui, tend au progrès, à la sagesse. Rien ne vise aux applaudissements. Je ne doute pas que tels ne soient ses écrits, bien que j'en juge plutôt par réminiscence que sur le livre lui-même, et que leur caractère m'apparaisse moins comme l'impression familière d'un commerce récent que comme les traits généraux d'une lointaine connaissance. Tel, il me semblait du moins quand je pouvais l'entendre. Non substantiel, mais plein. Fait pour enthousiasmer les jeunes âmes bien nées et les enflammer d'un zèle imitateur. De l'espoir même de le vaincre, exhortation selon moi la plus efficace. Car on décourage si, en donnant le désir d'imiter, on en ôte l'espoir. Au reste, il avait l'abondance du style, sans que tel ou tel passage ressortît. L'ensemble était magnifique.